Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le blog Et si tout m'était compté. Nous poursuivons la suite de notre histoire fabuleuse, celle de Persée. Souvenez-vous, Danaé est arrivée au palais de Polydecte et ce dernier s'occupe fort bien d'elle ainsi que de son fils. Demain, annonça Danaé un jour tristement à son fils, demain, Polydecte organise un grand banquet pour nos fiançailles. Quoi? S'emporta Persée. Vous allez épouser le roi? Je ne puis m'y opposer plus longtemps. Je t'en supplie, Persée. Tâche de faire bonne figure pendant cette cérémonie. La fête fut somptueuse. Polydecte avait fait servir les mets les plus fins. Chaque invité avait apporté un présent au maître des lieux, comme la coutume l'exigeait. Eh bien, Persée, demanda soudain Polydecte. Que penses-tu de tous ces cadeaux? Te semble-t-il digne de nous? Sire, répondit Persée dans une grimace de dépit, je ne vois là rien que de très ordinaire, des coupes en or, des chevaux, des harnais. Prétentieux, que voulais-tu donc qu'on m'apporte de si original? Je ne sais pas, la tête de Méduse, par exemple. Un murmure de crainte circula parmi les convives. Méduse était la plus grande et la plus dangereuse des trois gorgones. On ignorait où habitaient ces trois sœurs monstrueuses, mais on savait que leur chevelure était faite de serpents venimeux et surtout que leur regard pétrifiait sur place quiconque osait les regarder. Au fait, dit Polydecte, et toi, Persée, quel présent nous as-tu fait? Le jeune homme baissa la tête en maugréant. Qu'aurait-il pu apporter à leur hôte? Contrairement au roi, lui ne possédait rien. Eh bien, je te prends au mot, décréta Polydecte. Je t'ordonne de me rapporter la tête de Méduse. Ne reviens pas sans elle au palais. Le soir, Danaé, désespérée, dissuada son fils de la quitter, mais c'était sans compter sur la fierté de Persée, qui s'exclama: Non, Polydecte m'a lancé un défi, et je lui dois ce qu'il me réclame en échange de son hospitalité. Le lendemain, Persée errait le long des berges de Sériphos à la recherche d'une idée. Il quitterait cette île, soit, mais où aller? C'est alors qu'atterrit soudain devant lui Mercure, aux pieds ailés. Devant sa stupéfaction, le dieu des voyages éclata de rire. Te voilà bien embarrassé, jeune audacieux. J'ignore où se cachent les gorgones, mais leurs trois autres sœurs, les Grées, le savent. En outre, elles possèdent trois objets sans lesquels tu ne pourras pas accomplir ta mission. Et comment trouverais-je les trois Grées? Demanda Persée. Aucun problème, monte sur mon dos, je t'emmène. Persée se hissa sur les épaules de Mercure, qui prit aussitôt son envol. Le dieu vola très longtemps vers le couchant avant de se poser dans une région aride et sombre. Il chuchota à Persée: Prends garde! Ces vieilles sorcières ne te livreront pas ces renseignements et ces objets de leur plein gré. Il te faudra ruser. En approchant des trois sœurs, Persée eut un mouvement de recul. Elles étaient d'une laideur repoussante. Leur bouche était édentée. Leur orbite était vide. Elles semblaient agitées et en grande discussion. Inlassablement, elles se repassaient de l'une à l'autre un œil et une dent. Persée étouffa une exclamation. Eh oui, expliqua Mercure, elles ne possèdent qu'un œil et une dent pour trois. Elles doivent donc se les prêter sans cesse. Aussitôt, Persée eut une idée. Il s'approcha des trois Grées. Au moment où la première tendait l'œil et la dent à la deuxième, il s'en empara. Les vieilles femmes hurlèrent à l'aveuglette. Qui es-tu? Que veux-tu? Rends-nous notre œil et notre dent. À deux conditions, que vous m'indiquiez où je trouverai vos sœurs, les gorgones, et que vous me donniez les trois objets qui me permettront de les affronter. Affolées par tant d'audace, les trois Grées se disputèrent et se lamentèrent un moment, mais elles n'avaient même plus leur œil unique pour pleurer. Enfin, l'une d'elles soupira. Soit tu trouveras Sthéno, Uriale et Méduse, aux limites du monde, dans une caverne, par-delà le territoire du géant Atlas. Voici des sandales ailées qui te permettront d'y aller, une besace magique et le casque du dieu Pluton. Le casque de Pluton. Mais à quoi me servira-t-il? Celui qui le porte devient invisible. À présent, rends-nous notre bien. Persée leur remit l'œil et la dent, puis il rejoignit Mercure. Vois, lui dit-il joyeusement, je possède des sandales semblables aux tiennes. M'accompagneras-tu? Pas question, fit Mercure. J'ai beaucoup à faire. Désormais, tu peux te débrouiller tout seul. Mais prends garde à ne jamais regarder Méduse, ni ses sœurs. Tu seras changé en pierre. Ah, tiens, je te confie ma faucille d'or. Elle te sera utile. Persée se confondit en remerciements. Il enfila les sandales et s'envola avec une maladresse qui fit sourire Mercure. Le dieu des voleurs lui adressa un signe. Ne secoue pas les pieds si vite. Le vol, c'est une question d'entraînement. Tu apprendras vite. Persée, la joie au cœur, piqua vers le couchant. Grâce au dieu qui veillait sur lui, il ne doutait plus de vaincre Méduse. Traversant forêts et rivières, il rencontra les nymphes, jeunes divinités des bois et des eaux. Charmées par le courage et l'allure de ce jeune héros, elles lui indiquèrent le repère des gorgones. Quand Persée, parvenu au milieu d'un désert, découvrit l'entrée de la caverne, il frissonna d'horreur. Alentour, on ne voyait que des statues de pierre. C'étaient là tous ceux qui avaient affronté les gorgones et qui avaient été pétrifiés par leurs regards. Jusque-là, Persée n'avait pas mesuré la difficulté de sa tâche. Comment décapiter Méduse sans porter le regard sur elle? Néanmoins, il se risqua dans l'antre obscur en voletant. Il s'enfonça au cœur de la caverne où résonnaient des ronflements. Puis il aperçut un nœud de serpent qui se contorsionnait en levant vers lui des têtes sifflantes. Aussitôt, il détourna le regard et murmura, le cœur battant. Les gorgones sont assoupies. Les reptiles qui leur servent de chevelure vont leur révéler ma présence. Je ne peux quand même pas tuer Méduse les yeux fermés. Ah, Minerve, soupira-t-il, déesse de l'intelligence, viens à mon aide, inspire-moi. Une clarté illumina la grotte et Minerve apparut, vêtue de sa cuirasse et tout armée. Son regard était bienveillant. Je suis touchée par ta hardiesse, Persée. Tiens, je te confie mon bouclier, affronte Méduse en te servant de son reflet. Persée se retourna et comprit aussitôt. Maintenant, il pouvait progresser à reculons vers les trois monstres. Il tendait devant ses yeux le bouclier de la déesse, aussi lisse et poli qu'un miroir. Déjà, les trois gorgones s'agitaient dans leur sommeil, avec leurs corps recouverts d'écailles et les longs crocs pointus qui hérissaient leur gueule. Elles étaient vraiment hideuses. Persée repéra vite Méduse au centre. Elle était la plus jeune et la plus venimeuse des trois. Toujours en reculant et en se guidant sur le reflet du bouclier, il parvint jusqu'à la gorgone au moment où elle s'éveillait. Alors, faisant volte-face, il brandit la serpe qui lui avait confiée Mercure et la décapita d'un coup. L'énorme tête se mit à gigoter et à tressauter à terre. Un instant, Persée ne sut que faire. Puis, il s'empara de la besace que lui avaient donnée les grès. Hélas, elle est trop petite. Tant pis, essayons. Dominant sa répugnance, il ramassa la tête. Miraculeusement, le sac s'agrandit, juste assez pour que Persée puisse y enfouir son butin. Après quoi, la besace reprit sa taille. Le héros n'eut pas le temps de savourer sa victoire. Un bruit insolite l'alerta. Il aperçut le sang qui jaillissait à grands flots du corps décapité de Méduse. De ce bouillonnement rougeâtre surgissaient deux êtres fabuleux. D'abord, un géant apparut, une épée dorée à la main. Comme Persée reculait, l'autre le rassura. « Merci de m'avoir fait naître, Persée. Mon nom est Chrysaor. » Du sang de Méduse se dégageait peu à peu une autre créature encore plus extraordinaire, un cheval ailé d'une blancheur éblouissante. Et oui, c'est d'une très grande magie. La suite de notre récit la semaine prochaine sur le blog, et si tout m'était compté.